Merci d'écouter Inter, 19h21.
France Inter, le 18-20.
Le 18-20, ce soir, sur les perturbateurs endocriniens, ces substances chimiques qu'on trouve dans une masse considérable de produits de grande consommation. Couches pour bébés, shampoings, dentifrices, cosmétiques, plastiques, l'eau, les pesticides, la liste n'est évidemment pas close, mais elle donne une idée de l'ampleur, de l'emprise des perturbateurs endocriniens. On les soupçonne fortement d'être responsables de nombreuses maladies qu'on va détailler dans le téléphone sonne. Le sujet, vous le savez, est devenu politique à l'occasion de la primaire de la gauche, Benoît Hamon, en ayant fait l'un des thèmes majeurs de sa campagne. Sur tous ces aspects, vous avez la parole, intervenez jusqu'à 20h.
Nicolas Demorand, le téléphone sonne.
Twitter avec le mot-clé Telson, franceinter.fr et le 01 45 24 7000 pour le standard d'Inter. Pierre, bonsoir.
Allô, bonsoir. Bonsoir à tous. Voilà, bah, écoutez rapidement, je suis instituteur à la retraite. J'ai travaillé pendant un certain temps, pendant une trentaine d'années en maternelle entre autres. Et plus ça allait, me semble-t-il, plus les petites filles avaient une poitrine naissante en grande section de maternelle. Et puis les petits garçons avaient des poils sous les bras. Donc je ne sais pas à quoi c'est dû, mais est-ce possible que ce soit dû à des perturbateurs endocriniens? Voilà.
Question ouverte. Merci Pierre, vous nous appeliez de Guadeloupe. Pour vous répondre, deux invités au téléphone sonnent. Stéphane Aurel, bonsoir.
Bonsoir.
Journaliste, documentariste, auteur de Intoxication aux éditions La Découverte. Barbara Demnex, bonsoir.
Bonsoir.
Biologiste, directrice du laboratoire Évolution des régulations endocriniennes du Muséum National d'Histoire Naturelle. Vous avez publié chez Odile Jacob le cerveau endommagé. Que répondre à Pierre, notre auditeur, instituteur à la retraite?
Ben, malheureusement, il a raison. Nous pensons que on a ce qu'on appelle les pubertés avancées, précoces maintenant. On le constate de plus en plus et on pense que c'est dû à certaines produits chimiques dans notre environnement qui agissent un peu comme les hormones sexuelles endogènes.
Mmh. Ça, c'est, on commence à avoir assez de recul pour pouvoir le dire maintenant, avec certitude.
La certitude, c'est tout. En science, on est toujours, il y a toujours une petite, on se donne toujours une petite erreur, permet une petite erreur. Et il y a des études épidémiologiques d'un côté qui montrent des associations avec les taux élevés de produits chimiques dans le sang des enfants ou dans les sang des mères avant la naissance. Et puis, il y a des études sur des animaux qui montrent aussi les mêmes types d'effets. Donc, quand on entrecoupe les résultats épidémiologiques avec les résultats expérimentaux, on est très très consolidé dans notre opinion qu'effectivement, ces molécules dans l'environnement, les perturbateurs endocriniens, qui sont effectivement en cause dans cette puberté précoce.
Et ça, c'est comment dire, l'un des effets notables, la puberté précoce, chez les garçons et les filles.
Chez les garçons, c'est on peut des fois voir même une puberté retardée. Mais chez les filles, c'est vraiment très, très bien documenté, cette puberté précoce.
Stéphane Aurel.
Ça fait, la puberté précoce, ça fait partie des nombreuses maladies en fait, auxquelles on associe une exposition aux perturbateurs endocriniens. Et la liste est assez longue parce qu'en fait, c'est un peu toutes les maladies qui touchent l'homme moderne. Maintenant que les maladies infectieuses, on s'en est plus ou moins débarrassé dans les pays riches. Donc ça concerne certains cancers qui sont liés aux hormones, le cancer du sein, de la prostate et des testicules. Il faut savoir que le cancer des testicules, c'est le premier cancer qui touche l'homme jeune aujourd'hui. L'obésité et le diabète, qui sont des maladies qui sont liées et qu'on pense en partie liées à une exposition aux perturbateurs endocriniens. Et puis une question dont Barbara Demenex est une spécialiste, qui est le développement du cerveau. Et notamment des problèmes de diminution du QI et d'hyperactivité et tout ce qui est une maladie du spectre autistique.
Là-dessus, on a pu faire aussi les liens que vous décriviez tout à l'heure.
Exactement le même type de choses. Des expositions, épidémiologie sur l'exposition, souvent dans ce cas-là, ça va être chez la mère et entrecouper ça avec les résultats expérimentaux et vraiment l'hypothèse est extrêmement solide.
Et sur le cerveau, donc, quelles sont les pathologies?
Vient de dire Stéphane, on a dans plusieurs pays, on a documenté des pertes de QI sur les derniers 20 ans. Et en plus de ça, en même temps qu'on voit cette baisse de QI, on a une augmentation exponentielle des maladies neurodéveloppementales du style autisme et des maladies du déficit d'attention.
On va repasser au standard d'Inter. Bonsoir Anne-Laure. Vous êtes en ligne, Anne-Laure ? Non, vous n'êtes pas en ligne.
Allô, bonsoir.
Oui, vous aviez lâché le téléphone.
Oui, bonsoir. Je voulais savoir si un lien avait été établi entre les perturbateurs endocriniens et le développement de l'endométriose qui touche de plus en plus de femmes en France.
Merci pour cette question, Anne-Laure. Simone la pose également sur Twitter. A-t-on des chiffres sur les effets des perturbateurs endocriniens sur la fertilité et l'endométriose? Simone qui ajoute, un couple sur six est infertile. Quid des perturbateurs endocriniens? Barbara Demnex, vous avez la parole.
Absolument. De même, les études à la fois épidémiologiques et en cours des études expérimentales pour l'endométriose comme pour l'infertilité, plusieurs fenêtres de vulnérabilité ont été identifiées. Et de nouveau, oui, ça peut être des plastifiants, ça peut être de nouveau le BPA qui peut être en cause. Il y a énormément de produits et c'est très difficile vu le nombre de produits auxquels on est exposé aujourd'hui. L'enfant moyen qui naît peut avoir jusqu'à, les études américaines montrent jusqu'à 250 produits dans le sang. Donc, pour dire, c'est celui-là plutôt qu'un autre, mais c'est assez bien démontré que l'endométriose et l'infertilité sont liées par certaines, causées par certaines perturbateurs.
Stéphane Aurel, on en trouve absolument partout de ces perturbateurs endocriniens.
On peut presque dire que la société de consommation, elle s'est fondée là-dessus, sur la pétrochimie. Après la Deuxième Guerre mondiale, on a utilisé massivement des pesticides en agriculture. On a utilisé massivement des plastiques parce que c'était pas cher, pratique. Ça ne veut pas dire que c'était... ça a beaucoup d'avantages d'utiliser ces plastiques. Le problème, c'est que pour faire du plastique souple, on utilise des phtalates, donc qui sont des plastifiants. Donc maintenant, il y en a dans les rideaux de douche, dans les tongs. On en trouve dans tous les plastiques un peu mous. Mais on en trouve aussi dans
les jouets d'enfants.
On en trouve dans les jouets des enfants, mais on en trouve aujourd'hui jusque dans les fourmis au fin fond de la forêt de la Guyane. C'est-à-dire que c'est des substances chimiques qui ont complètement envahi l'environnement à un point qu'on n'imaginait évidemment pas au départ, mais maintenant qu'il faut absolument prendre en compte.
Oui, Barbara Demnex.
Oui, moi je voudrais juste ajouter que depuis qu'on a sonné la première fois l'alarme sur ces produits, c'était en 63 avec Rachel Carson, avec la printemps silencieux.
Mais 63.
Oui, en 63, mais depuis l'année 70, on a eu une augmentation de 300 fois de la quantité de produits produits par l'industrie chimique. Donc, 300 fois depuis 70.
Est-ce qu'il y a des produits de consommation courante où on n'en trouve pas? Parce que la question, j'ai l'impression, est plus simple. Où est-ce qu'on ne trouve pas de perturbateurs endocriniens dans les produits de grande consommation, Stéphane Aurel?
C'est une question à laquelle il est très difficile de répondre, tout comme il est difficile de dire s'il y a des phtalates ou quel type de produits chimiques il y a dans votre chemise ou dans vos lunettes, par exemple.
Oui, chemise et lunettes. Oui,
ou ça, dans c'est... vos enfants. Oui. C'est un peu, sans faire des tests très poussés, c'est assez difficile à dire. Et c'est pour ça que aujourd'hui, la seule façon de traiter ce problème en termes de santé publique et de protection de l'environnement, c'est de réglementer ces substances comme une famille en fait de produits toxiques.
Daniel, bonsoir.
Bonsoir.
Vous nous appelez des Vosges, soyez le bienvenu.
Merci de prendre ma question. Merci pour vos émissions.
Merci à vous.
Voilà, c'est très simple. En fait, moi, ce qui concerne, c'est la réglementation et principalement la réglementation européenne. La Commission européenne, à mes yeux, devait donc statuer depuis 2008 pour interdire les perturbateurs endocriniens. Sauf erreur de ma part, mais je ne crois pas. Récemment, je crois que c'est au mois de décembre, la Commission européenne s'est vue rejeter donc sa proposition de loi ou de règlement par rapport à ces perturbateurs endocriniens, sachant qu'elle devrait les interdire. Alors je me pose la question, quel rôle joue la Commission européenne par rapport au fait qu'elle fait en sorte qu'il n'y ait pas de règlement, qu'il y ait un règlement plutôt qui soit favorable aux industriels. C'est une grosse question.
Merci Daniel. J'y ajoute celle de François. Comment interprétez-vous la position de la Commission européenne qui fait machine arrière sur les décisions contre les perturbateurs endocriniens? Stéphane Aurel.
Alors, effectivement, la Commission européenne devait définir scientifiquement qu'est-ce que c'est un perturbateur endocrinien afin de justement de les réglementer avant décembre 2013, ce qu'elle date qu'elle n'a pas respectée, et pour ce retard a causé une plainte. Hein. La Suède, la France, plusieurs États membres, le Parlement européen et le Conseil ont porté plainte auprès de la Cour de justice européenne contre la Commission, qui a été condamnée en décembre 2015, ce qui n'a pas empêché la Commission de traîner encore des pieds, donc à faire ça, effectivement, une proposition il y a quelques semaines, qui a été jugée par la communauté scientifique totalement irréaliste en termes de niveau de preuve qui est exigé pour enfin interdire au moins une substance. On se demande même si, avec la proposition telle qu'elle a été faite aujourd'hui, même malgré les amendements, si une seule substance pourrait être attrapée dans le filet de cette réglementation européenne.
Parce qu'elle est très floue ou très rigoureuse?
Elle est très rigoureuse ou complètement laxiste selon point de vue selon lequel on se place, mais on demande presque d'avoir une preuve absolue chez l'homme pour pour réglementer les perturbateurs endocriniens, sauf que la réglementation des produits chimiques, elle s'est jamais faite sur ces bases-là, et ce serait une des exigences qui sont encore plus élevées que ce qu'on a pour les cancérigènes aujourd'hui.
C'est impossible de faire la preuve dans ces conditions-là.
Oui, c'est comme si aujourd'hui on pouvait dire, attendez, oui, effectivement, une substance Y enlève 10 points de QI chez des enfants. Ah maintenant on va le réglementer 10 ans plus tard. Mm-hmm. C'est absolument ridicule.
Et pourquoi la Commission a cette position ?
J'ai documenté dans mon travail que la Commission était extrêmement perméable aux demandes de l'industrie chimique et l'industrie des pesticides, qui ont fait dérailler un peu ce processus de réglementation en 2013, donc l'année où la Commission devait donner cette définition. Et depuis, le lobbying n'a pas cessé de la part des industriels, mais la Commission est dans un état d'esprit qui est plutôt de protéger l'industrie que la santé publique.
La parole à Denis qui nous appelle de l'Oise sur ces questions de lobby. Bonsoir Denis.
Oui, bonsoir d'avoir pris ma question. En fait, ma question rebondit un petit peu sur la question précédente de l'auditeur. La faiblesse du pouvoir politique devant le lobby industriel phytosanitaire. Pour preuve, je prendrai une anecdote, si on peut dire anecdote, d'un fait divers. Une école maternelle qui était proche de vignes, d'un viticulteur qui répandait aux heures finalement où les enfants jouaient en cours de récréation. Des prélèvements avaient été effectués sur les cheveux de ces enfants. Près de 10 produits phytosanitaires avaient été recensés, dont 3 ou 4, même 4 je crois, interdits depuis quelques années. Alors je me pose la question, les politiques jouent-ils la carte des industriels phytosanitaires, approchant les députés d'ailleurs qui sont très sensibles à ces lobbies? Alors la question est de savoir quelle est la priorité des politiques, la santé de nos enfants ou les industriels.
Bien compris, oui. En fait, voilà. Merci Denis pour cette question. Sur le rapport de force donc entre les lobbies et le pouvoir politique, Stéphane Aurel.
Je crois que la question de Denis se termine par une non-question, justement. Mais il y a une image d'Épinal sur le lobbying où on parle de rapport de force, de pression. On pense aussi aux députés, ce que Denis disait. Le lobbying, en fait, c'est pas du tout ça. Quand on en est à faire du lobbying sur les députés, c'est qu'on a raté son lobbying qui se fait bien en amont. Et il ne s'agit pas de pression, mais il s'agit d'organiser une contiguïté d'intérêts, un environnement intellectuel qui fait que on n'a pas envie d'aller à l'encontre des intérêts de l'économie, puisque aujourd'hui, nous n'oublions pas que la priorité des politiques, c'est la croissance et l'emploi. Pas la santé publique.
Oui.
Barbara Domenech.
Oui, mais nous, du côté scientifique, on a quand même fait des calculs sur qu'est-ce que ça coûte, ces perturbateurs endocriniens, en termes de santé publique, au niveau européen. Et juste pour les maladies neurodéveloppementales et le PET de QI, on a calculé une perte annuelle au niveau de l'Europe de 150 milliards d'euros.
Et donc, milliards.
Milliards. Voilà. Et donc, vraiment, il est temps que on prenne en compte cela aussi.
Et est-ce que les lobbies cherchent à organiser, c'est la question que je pose à la chercheuse que vous êtes, ce qu'on pourrait appeler l'incertitude scientifique, à compliquer la donne,
faire
que le circuit de la preuve soit encore plus compliqué à
faire.
Comment ça se passe en laboratoire?
On était même traité par les lobbies de l'industrie chimique, de pseudo-scientifiques. Au lieu de reconnaître qu'il y a vraiment des dizaines de milliers de scientifiques qui sont dans l'Endocrine Society, qui disent qu'il y a un problème avec la perturbation endocrinienne, il y a un petit groupe de personnes qui sont le plus souvent, Stéphane l'a bien démontré, payées par l'industrie chimique, qui sont là pour dire « oui, à vrai dire, on n'est pas tout à fait d'accord ». Et bon, pourquoi 20 personnes qui ne sont pas d'accord contre quand même des dizaines de milliers d'endocrinologues?
On est payé pour faire de la fausse science ou pas sur ce dossier, Stéphane Aurel?
Il y a ça, mais c'est une question plus globale qui s'inscrit en fait dans les stratégies de tous les industriels qui vendent des produits dangereux. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle les stratégies de manufacture du doute qui ont été inventées par l'industrie du tabac qui historiquement vend un produit extrêmement dangereux puisqu'il est a priori mortel pour la plupart de ses consommateurs. Cette industrie, elle a mis au point des stratégies qui permettent d'utiliser ce qui est le moteur de la science, qui est l'incertitude. Que la science ait repoussé les frontières de l'ignorance et de transformer cette incertitude dans une espèce de doute qui ferait que tant qu'on n'est pas sûr, c'est qu'il n'y a pas de problème.
Oui. On l'a vu pour le changement climatique, etc. Oui.
On repasse au standard. Bonsoir Elsa.
Oui, bonsoir.
Vous nous appelez d'Auvergne, bienvenue.
Merci. Je remercie d'abord France Inter pour la qualité de ses émissions.
Merci à vous.
Par ailleurs, je suis sage-femme libérale du coup, donc je côtoie des mamans inquiètes tous les jours, et futures mamans inquiètes tous les jours. Qu'est-ce que je leur dis concrètement? Voilà, ma question c'est vraiment du concret, parce qu'il y a déjà eu une émission en fait avec Patrick Cohen où l'invité avait conclu en disant il faut manger bio, il faut pas se maquiller, il faut éviter de se mettre des crèmes, des cosmétiques, etc. C'est bien? Mais concrètement, qu'est-ce que je fais? Je leur dis de devenir des ermites ou quoi?
Voilà. Restez en ligne, Elsa. Barbara Demnex commence à vous répondre.
Oui, tout à fait. C'est des recommandations qu'on peut donner aux femmes enceintes et je suis tout à fait d'accord avec cela. Malheureusement, on sait que sans une législation, mais on peut quand même diminuer notre exposition aux pesticides en mangeant bio. C'est vrai. On peut diminuer l'exposition à certaines parabènes et phtalates en utilisant moins de cosmétiques. Et bon, mais moi, ce que je recommande, et c'est surtout, il faut penser à beaucoup de ces perturbateurs endocriniens peuvent interférer avec les hormones thyroïdiennes. Donc vous êtes sage-femme, vous connaissez l'importance de l'hormone thyroïdienne pour le développement du cerveau. Or, on a besoin d'iode pour faire des hormones thyroïdiennes. Et bon, en Auvergne, vous êtes donc dans le centre de la France, on peut être dans des situations où les femmes qui rentrent en grossesse manquent d'iode. Et il y a des cachets de vitamines qu'on recommande pour les femmes enceintes, mais qui contiennent 150 microgrammes d'iode. Et à prendre une cachet comme ça tous les jours avec le folate et les vitamines qu'on recommande pour la grossesse, ça peut d'abord assurer que la femme a suffisamment d'iode et donc elle n'aura pas ce double attaque, manquer d'iode et être exposée à des perturbations endocriniennes qui interfèrent avec le développement du cerveau de leur enfant. Donc, c'est une petite chose qu'on peut faire en plus, mais avant tout, il faut la législation.
Et dès lors qu'il y en a dans les vêtements, comme le disait Stéphane Aurel, qu'il y en a dans les lunettes, qu'est-ce qu'on porte? Demandait également Elsa. Qu'est-ce qu'on conseille de porter à des femmes enceintes comme vêtements?
On peut recommander qu'elle lave toujours avant de porter.
C'est sûr.
Stéphane Aurel?
C'est ça le problème, en fait, c'est que c'est très difficile. C'est très difficile, et puis c'est extrêmement angoissant. Moi, c'est une question à laquelle j'aime pas répondre quand mon entourage me la pose, parce que je me sens un peu responsable, alors que les responsables de cette situation, ce sont les pouvoirs publics avant tout. Et je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut peut-être qu'on n'a pas bien précisé depuis le début de l'émission, c'est que les inquiétudes, elles se portent surtout sur l'exposition des bébés pendant la grossesse, parce que les bébés pendant la grossesse, ils choisissent pas ce qu'ils font. Et ces substances chimiques qui sont omniprésentes, elles peuvent agir à des doses infinitésimales parce que les hormones qu'elles bloquent ou qu'elles imitent agissent à des très 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 petites doses, et c'est les hormones qui fabriquent en grande partie les bébés. Et le fait que les circuits de fabrication des bébés par les hormones soient perturbés pendant la grossesse, en fait, peuvent semer les mauvaises graines de maladies qui se développeront, qui se manifesteront à la naissance ou 20 ans, 30 ans, 40 ans plus tard.
Barbara Demnex.
Oui, ça s'appelle l'origine developmentale des maladies chez l'adulte. Et on sait de plus en plus que toute la grossesse est évidemment une période vulnérable, mais les premiers 3 ou 4 mois de grossesse sont particulièrement vulnérables parce que c'est là où tous les petits organes sont en train de se mettre en place. Et vraiment, c'est justement le Parlement européen avait vraiment cité ce cas. Les femmes et les femmes enceintes et leurs enfants doivent être protégés de cette perturbation de crânienne.
La parole à Thierry qui nous appelle de Lyon.
Bonsoir.
Bonsoir.
Bonne année 2017 pour l'équipe de France Inter.
Merci.
Une question directe. Trouve-t-on des perturbateurs dans les préservatifs? Si oui, quel risque? Je pense particulièrement aux jeunes hommes et aux jeunes femmes.
Merci Thierry pour cette question. Qui peut y répondre?
Stéphane Aurel. Je ne saurais pas dire, en fait. J'ai pas en tête. Je sais qu'il y a des tests qui ont été faits il n'y a pas très longtemps.
Mais oui.
Non, Barbara Demnex, non
plus, ouais. Je devrais savoir parce que c'est une question qui est assez récurrente. Ouais.
Oui, on en a une autre. Alors, donc, pas de réponse, Thierry.
En tout cas, on sait qu'il y en a dans énormément de produits d'hygiène, notamment d'hygiène intime. Et
oui.
Dans les tampons, les services hygiéniques et ce genre de choses, hein, ce qui est d'ailleurs une vraie problématique.
Jeunes hommes et jeunes femmes, disait Thierry, ça va jusqu'à l'adolescence, l'exposition dangereuse aux perturbateurs endocriniens.
À tout âge, mais c'est surtout bon chez nous, chez moi. Bon, le fait qu'il y a de la moquette ici, bon, il y aura des retardateurs de flamme qui vont peut-être interférer avec la mémoire ou l'action des hormones thyroïdiennes. Mais pour moi, c'est beaucoup, 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 beaucoup moins grave qu'une femme enceinte.
On a une question de Bernard de Meudon. Est-ce que les résidus de la pilule sont des perturbateurs endocriniens? Et est-ce que dans l'eau qu'on boit, ces résidus de pilule sont présents? Point d'interrogation. Barbara Demnex.
Ben oui, ils peuvent être. C'est pour ça que les Suisses ont instauré un système où on va enlever les micropolluants à la source. Ça coûte 9 francs suisses par habitant par an. Ben, c'est pas habitant, c'est pas famille, c'est pas maison. Et donc, vraiment, il faut payer, c'est vrai, pour être sûr qu'on enlève ces micropolluants qui incluent les résidus de la pilule de l'eau. Mais on peut le faire.
Parce Stéphane
que la pilule, quand on, c'est des hormones sexuelles féminines, et on c'est d'ailleurs une des choses qui a fait qu'on s'est rendu compte de l'ampleur du problème des perturbateurs endocriniens dans les années 90, c'est que la quantité d'œstrogènes ou de substances qui imitent les hormones sexuelles féminines dans les rivières britanniques changeait le sexe des poissons. C'est-à-dire que c'est parce que les poissons mâles étaient exposés à des résidus de pilules et autres, les détergents notamment, ce genre de choses. Ça fait une accumulation, ce qu'on appelle l'effet cocktail, hein, qui existe aussi pour ça existe pour les poissons, les brochets britanniques, mais ça marche aussi pour les bébés. C'est un peu ça le problème. Et les brochets mâles fabriquaient aussi des débuts d'ovules.
Nicole, bonsoir.
Bonsoir tout le monde.
Bienvenue.
Alors, moi, je suis ni enceinte, ni voilà, j'ai 74 ans et j'ai depuis des années problèmes de thyroïde, probablement on m'avait dit à cause de Tchernobyl. Et on sait que le chlore n'est pas bon du tout pour la thyroïde, pour les gens qui ont des problèmes de ce genre, et donc j'ai résolu depuis pas mal d'années de boire de l'eau en bouteille, donc je fais monter avec, je la chauffe et tout ça. Alors là actuellement, mes problèmes de thyroïde s'aggrave. J'ai une thyroïdite malgré le lévothyrox, etc. Est-ce que le fait de boire cette eau en bouteille peut justement m'aggraver ces problèmes de thyroïde ou pas? Et si j'arrêtais de boire de cette eau, est-ce que ça résoudrait une partie du problème?
Merci Nicole pour cette question. Qui peut y répondre? Vous pouvez y répondre, Barbara Demnex.
Les meilleurs spécialistes au monde des hormones thyroïdiennes.
Alors allez-y. Consultation, Nicole.
Ok. Well, d'abord, malheureusement, c'est pas que Tchernobyl. Peut-être il y a quelque chose avec, mais les maladies de la thyroïde ont toujours été présentes et surtout chez les femmes. Une femme sur 8 va avoir une maladie de sa thyroïde lors de sa vie. Moi, j'en ai eu. Donc, c'est pas que Tchernobyl. Et puis même pour les cancers de la thyroïde, il y avait eu une augmentation qui prédatait Tchernobyl. Donc, mais on sait que la thyroïde est extrêmement sensible et il, comme vous avez dit, le chlore, c'est pas bon pour la thyroïde. Mais les retardateurs de flamme sont souvent bromés. Les surfactants sont des molécules fluorées. Fluor, brome et chlore, c'est des halogènes. Et l'autre halogène, c'est l'iode. Donc, vraiment, l'hormone thyroïdienne, je vais devenir un tout petit peu scientifique, là, précise. L'hormone thyroïdienne, c'est la seule molécule complexe produite par nos corps qui contient un halogène, l'iode. Et effectivement, le chlore, le fluor et le brome, c'est pas bon pour la thyroïde. Maintenant, votre eau en bouteille, est-ce qu'il est en une bouteille en plastique ou une bouteille en verre?
En plastique, j'ai l'impression. Nicole, vous êtes encore là ou pas?
Je suis là, c'est en plastique.
Bouteille en plastique, voilà. Oui. Alors, qu'est-ce
malheureusement,
qu'on
fait vous êtes... c'est difficile. La question de l'eau est très difficile. Vous devrez demander quand même à votre fournisseur d'eau de vous donner quand même la liste des choses qui sont dans l'eau. Ils le font. Ouais. Nous, on le fait régulièrement au laboratoire, par exemple, pour avoir la liste des parce que nos têtards sont très sensibles à la pollution. Et donc, on demande souvent à la mairie de Paris la liste des produits qui se trouvent dans notre eau. Et c'est assez propre quand même.
Et il faut tout de même éviter les bouteilles en plastique.
Oui, surtout ceux qui sont quand une bouteille reste dans la lumière ou dans le exposée à la chaleur, il va toutes les plastifiants vont être transférés de la matière plastique dans l'eau. Mmh. Et quand on voit une bouteille qui se dit BPA frais, libre, donc qui contient pas de BPA,
de bisphénol.
Traduit. BPA, c'est bisphénol. Bisphénol A. Malheureusement, on sait qu'aujourd'hui, c'est une de ces substances qui a été, on a fait une substitution, mais par une molécule qui s'appelle aussi un bisphénol, mais bisphénol F, mais qui est tout aussi, ou S, qui est tout aussi mauvais.
Stéphane Aurel.
Oui, c'est un peu le problème, c'est ce qu'on appelle la substitution regrettable. C'est de remplacer un peu comme on a fait au départ. On a mis des substances sur le marché sans les tester. Hein, c'est le cas de l'écrasante majorité des substances chimiques aujourd'hui. Il faut savoir qu'il y en a quand même 145 000 sur le marché en Europe, mises sur le marché dans la majorité sans aucun test, et qu'on refait la même chose. C'est-à-dire qu'on enlève une substance parce qu'il y a une réglementation. En France, le bisphénol A est interdit dans les biberons et contenants alimentaires, et de le remplacer par quelque chose qui est identique ou voire pire.
Oui.
Magali, bonsoir.
Oui, bonsoir. Je vous remercie pour la qualité de vos émissions.
Merci à vous. Allez-y.
Représentante des parents d'élèves, élue parents d'élèves à Bordeaux. Et depuis le 9 janvier, donc, la mairie de Bordeaux a décidé de généraliser la vaisselle en plastique dans toutes les écoles de la ville, maternelles et élémentaires. Les parents avaient été alertés au mois de mars parce qu'ils avaient demandé le retrait des gobelets en plastique et la mairie, au contraire, nous a dit non, pas du tout, on généralise tout. Donc, on est très inquiets. Et donc, c'est passé comme ça sans que personne n'en soit prévenu. Donc, on est inquiet à la fois en termes de santé publique. On se demande quels sont les effets de cette vaisselle hein, sur nos enfants. Et puis aussi la question environnementale, puisque cette vaisselle, elle ne résiste pas au-delà de 500 lavages. Donc, certains gobelets contenaient encore n'étaient pas aux normes des tests hein, de la réglementation de 2015. Sur le bisphénol. Puis on a les assiettes en copolyester, la littérature scientifique est très circonspecte là-dessus.
Magali, que vous répond la mairie quand vous faites valoir ce que vous venez de nous dire?
Eh bien, dans un premier temps, ils ont refusé d'entendre nos arguments en conseil d'école. Et puis là, on a reçu enfin, c'est depuis le mois de mars 2016 hein, que c'est sur le tapis, on a reçu cette semaine des analyses qui ont été communiquées par le fournisseur, mais qui comportent un certain nombre de silences. Et donc, on s'interroge un petit peu sur qu'est-ce qu'il y a dans ces assiettes. C'est souvent soumis au secret industriel. Et
Magali, une autre question, permettez-moi. On vous prend pour des fous
oui.
Ou oui, c'est ça.
Oui. Du côté des institutions, oui, sans doute. Après, il y a quelques personnes sensibles, mais voilà, je suis même pas sûre que la décision ait été connue de tous les services, et surtout, elle n'est pas connue des parents d'élèves, qui apprennent très surpris ce passage et cette généralisation.
Merci Magali pour ce témoignage. Qui veut y réagir, Stéphane Aurel?
C'est vrai que je trouve que prendre d'un point de vue purement environnemental, absolument, en 2016, prendre une décision pareille alors que le monde est en train de crever dans les déchets de plastique, c'est quand même assez
c'est délirant pour
c'est
vous.
assez bizarre en tout cas. S'il faut tous les 500 lavages remplacer d'un point de vue financier et environnemental, c'est déjà une catastrophe. Mais que en plus de prendre, alors que la littérature scientifique est quand même assez abondante sur les plastiques et les composants, la vaisselle en plastique, en plus les contenants alimentaires sont concernés par une loi en France, quoi. Donc je trouve ça assez curieux. Il faudrait tester chacune de ces assiettes pour savoir si elle ne contient pas du bisphénol A, pour voir si elle n'est pas concernée par la
Barbara
réglementation.
Barbara Demnek.
Je suis tout à fait d'accord avec Stéphane. C'est rétrograde.
C'est rétrograde. Voilà Magali, vous avez la réponse à votre question. Christine, bonsoir, bienvenue.
Bonsoir.
Vous nous appelez de Seine-et-Marne.
Oui, voilà. Je prends des médicaments et j'ai un peu cherché aussi sur Internet. Et puis j'ai écouté d'autres émissions. Et voilà, ces médicaments, et il y en a d'autres aussi, qui contiennent dans leur pelliculage du dioxyde de titane 171, qui n'est pas très bon pour la thyroïde. Moi d'ailleurs, j'ai des nodules. Voilà. Et apparemment, c'est beaucoup de médicaments qui sont concernés. C'est pour soigner normalement.
Voilà, si même les médicaments sont des poisons. Merci Christine, Barbara Demnex, votre réponse.
Oui, c'est effectivement une molécule sur laquelle on se pose pas mal de questions en ce moment. Parce qu'il peut, la présence qui va, il y en a beaucoup qui va être dans les eaux des nappes, et qui peuvent effectivement activer certains autres produits dans des formes plus actives aussi.
On a une question sur, non pas les médicaments, mais les pharmaciens. Pourquoi les pharmaciens, qui sont des professionnels de santé, nous vendent-ils des produits qui contiennent des perturbateurs endocriniens? Les supermarchés passent encore, mais on ne peut même plus faire confiance à des spécialistes censés être formés et informés. Stéphane Aurel.
C'est un peu étrange comme question, dans le sens où les pharmaciens, ils vendent des médicaments, des produits de parapharmacie, et s'ils devaient choisir uniquement des produits qui ne contiennent aucun perturbateur endocrinien, que ce soit dans l'emballage, je pense qu'il n'y aurait plus rien dans les pharmacies, quoi.
Et elles mettent la clé sous la porte. D'où la question, effectivement, de savoir où n'y en a-t-il pas. On a qui est en ligne? Michel, bonsoir.
Bonsoir, monsieur.
Bienvenue.
Je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Dites, monsieur, je voudrais qu'on m'explique. D'abord, les génériques, ils sont pas du tout identiques aux médicaments qu'on nous donne. Je suis diabétique 2. Souvent, on veut me donner le générique et moi, je refuse le générique. D'autre part, j'ai une fille qui a des coliques hémorragiques qui sont terribles, qui la rendent malade et qui la bactérie est en train de lui manger les intestins. Est-ce que ça peut être dû à des endocriniens qui sont pas bons? Et deuxièmement, je voudrais savoir pour quelle raison les Européens, l'Europe, n'a pas signé le papier comme quoi on interdisait l'huile de palme, parce qu'il y en a absolument partout. Alors non seulement ça détruit la nature, mais en plus c'est bourré de saleté, ce machin-là.
Merci Michel. Merci Michel pour cet ensemble de questions. On va peut-être commencer par les médicaments génériques, pareil, différents.
Moi je ne me suis pas vraiment penchée sur le lobby de l'huile de palme encore, mais je pourrais le faire, ça peut être un projet. En revanche, sur l'industrie pharmaceutique, c'est que je connais un petit peu, mais sur la question des médicaments génériques n'est pas une question. C'est-à-dire que les médicaments génériques sont équivalents aux médicaments princeps et il n'y a aucun problème dans le fait de prendre des génériques.
Oui.
Barbara Demnex, position.
Oui, même position. Tout à fait.
Une question par courrier électronique, sachant que d'innombrables, c'est une question sur le scandale sanitaire au fond, d'innombrables molécules dont les perturbateurs endocriniens évidemment sont des poisons, pourquoi continue-t-on à les utiliser dans l'alimentation entre autres? Ne pourra-t-on pas un jour traîner en justice tous les responsables, fonctionnaires, industriels, etc. de ce scandale sanitaire? Qui veut répondre?
C'est une question un peu
compliquée. Stéphane Aurel.
C'est une question un peu compliquée parce que justement parce qu'il y en a partout. C'est-à-dire que le point de départ de la réglementation européenne, c'est justement d'interdire les pesticides qui ont des propriétés de perturbation endocrinienne. Mais à partir du moment où on commence à faire ça, ce que l'Europe du coup recule à faire, ça pousse à repenser complètement le modèle agricole, puisqu'il repose entièrement aujourd'hui sur l'agrochimie.
Barbara Demnex.
Oui, mais en rebondant sur l'idée de pesticides, on a quand même, l'INRA a bien démontré qu'on peut réduire la quantité de pesticides au moins 50%, sans quasiment pas toucher au rendement. Donc, vraiment, pourquoi politiciennes ne font pas cette réglementation? C'est vraiment parce qu'ils sont influencés par des lobbies qui veulent vendre plus.
La parole à Isabelle de Paris. Bonsoir, bienvenue dans le téléphone sonne.
Bonsoir.
Vous avez la parole.
Eh bien, je voulais juste savoir, moi je suis atteinte de la maladie de Crohn. Alors j'ai 51 ans. Maladie diagnostiquée à 20 ans. Et pendant 15 ans, j'ai vécu dans le sud-ouest, à côté d'un viticole, quoi, quelqu'un qui est pendé largement. Et je voulais savoir s'il y avait un lien, parce que moi, j'avais mes fenêtres qui donnaient sur sa vigne quand il balançait tous les produits.
Merci Isabelle pour cette question. Barbara Demnex.
Bah oui, les pesticides, bah surtout le glyphosate, le Roundup a été, disons, soupçonné d'être à la base de pas mal de maladies qui touchent l'intestin. Monsanto nous dit qu'il n'y a pas d'enzyme dans notre corps qui est sensible au glyphosate, mais le fait est que les bactéries, et on sait aujourd'hui l'importance du microbiome dans tout notre bien-être, et surtout dans notre système immune. Donc vraiment, il y a des données qui montrent que la présence des pesticides peut induire des maladies comme le type de maladie de Crohn, mais aussi, tout à l'heure, quelqu'un parlait des enfants dans le cours, on sait aussi que le plus près qu'on habite d'une zone de répandage de certains pesticides, comme le chlorpyrifos, le risque d'autisme augmente aussi. Donc vraiment, quand je relis ça à ce que je viens de dire, qu'on peut réduire la quantité de pesticides, l'INRA l'a bien démontré, c'est vraiment une histoire de lobby qui fait en sorte que on applique de plus en plus.
Alors, j'ai quelques questions très pratiques qui peuvent susciter des réponses courtes. Est-ce que les meubles neufs sont source de perturbateurs endocriniens? Qui veut répondre? Barbara Demnex.
Surtout ceux qui contiennent de la mousse, oui.
Donc, ceux qui ont de la mousse. Si l'air dehors est pollué aux particules fines, faut-il aérer quand même?
Oui, parce qu'on a montré que même si on n'aère pas, on accumule encore plus à l'intérieur.
Et l'air intérieur est parfois, enfin, la plupart du temps, plus pollué que l'air extérieur.
Alors, question pour le pompon. Que sait-on des effets cocktails entre les différentes pollutions? Barbara Demnex.
Ah ben, c'est ça qui nous inquiète le plus aujourd'hui. C'est effectivement qu'on est exposé à des centaines de molécules et l'effet cocktail, les effets des mélanges est très, très peu étudié. On ne sait même pas à quels sont vraiment, auxquels on est le plus exposé.
Ben écoutez, merci à toutes les deux. Stéphane Aurel, journaliste, documentariste, auteur de Intoxication aux éditions La Découverte, Le cerveau endommagé chez Odile Jacob est le titre de votre livre. Barbara Demnex, vous êtes biologiste, directrice du laboratoire Évolution des régulations endocriniennes du Muséum national d'histoire naturelle. Merci à vous, amis auditeurs et auditrices d'Inter. Le journal à suivre.